Ouellette.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio. X.
13h26, on est de retour. L'Iran. T'as pas supposé d'être rapide, ça. T'as pas supposé quelques jours. On arrive au 70e jour du conflit, quand même. 2 mois et demi. Et c'est pas terminé. Je connais l'histoire de Pierre et le loup. Tu connais l'histoire de Pierre et le loup?
Mm-hmm.
Ça, c'est Pierre, il va marcher, puis à toutes les fois, il revient au village, il dit « Il y a un loup, il y a un loup, il y a un loup », puis là, tout le monde capote. Tout le monde se barricade, tout le monde vire fou, puis finalement, il n'y a pas de loup, mais Pierre, il trouve ça drôle. Je les ai bien eus, puis là, un moment donné, il y en a un loup, pour vrai. Pierre revient au village, il y a un loup, il y a un loup,
personne
qui le croit. Donald Trump, ça fait 5 fois, là, 6 fois qu'il nous dit « On est là, là. On y arrive, gang. On est sur le bord, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. » Il nous a dit ça. Donc, aujourd'hui, on dit que Washington attend là, impatiemment une réponse de l'Iran, leur dernière offre pour régler le conflit. Et comme à l'habitude, on nous dit il y a des très bonnes chances que ça marche. Je ne sais plus quoi penser de ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles on va jaser, entre autres, avec notre chroniqueur, analyste géopolitique du Média international indépendant 7 jours sur Terre. Monsieur Tremblay, vous êtes bienvenu. Bonjour.
Merci, JC.
Est-ce que cette fois est la bonne? On dirait que c'est Pierre et le loup, là, j'y crois plus.
Tu l'as bien résumé en entrée. Malheureusement, pour le dire en bon québécois, ça s'en va nulle part. Pas en tout.
Je sais même pas, Benjamin, avec qui on négocie. Parce que le fils de Khamenei, moi, je l'ai jamais vu, là.
Non, puis on a su cette semaine, JC, qu'il était, il était probablement dans le coma, en fait, là, dans la ville de Qom, en Iran, qui était hospitalisé et incapable de diriger le pays en raison de sa condition. On a commencé par nous dire, là, je ne sais pas si tu te souviens, originalement, il avait été blessé aux jambes, il avait peut-être été défiguré, on n'était pas trop au courant de quel était son état exact, mais apparemment qu'en ce moment, il serait dans le coma, incapable de diriger et de communiquer. Donc, ce serait essentiellement là, les gardes de la Révolution qui dirigent, qui dirigent le pays. Il est arrivé quelque chose cette semaine, c'est hallucinant. JC, si tu veux une idée là, à quel point c'est vraiment dans... On a un niveau de dissension à l'intérieur du gouvernement iranien qu'on nous parlait la semaine dernière. Là, Trump disait « Ah, ils sont pas capables de s'entendre. Il y a des factions qui veulent négocier. Il y en a d'autres qui veulent pas. » On a vu quelque chose de super curieux la semaine dernière. Là, tu as eu le président Massoud Pezeshkian qui a publié sur Twitter, sur X, autrement dit, pour dire « Le détroit d'Hormuz est maintenant ouvert. Vous avez juste besoin de coordonner avec nous autres, mais il n'y a pas de problème. Tout le monde peut traverser. » Quelques minutes après le tweet du président, t'as un officier de la garde révolutionnaire iranienne qui s'est identifié comme tel et qui a broadcasté un message sur les ondes navales, les ondes radio destinées aux navires, en leur disant « Le détroit est toujours fermé. Quand il va être ouvert, vous allez le savoir de l'ayatollah, notre seul chef, pas une espèce de clown qui tweet. »
Wow, le président!
Le président. Comme quoi, il y a effectivement un certain niveau de dissension à l'intérieur du gouvernement iranien.
Mais tout ce que tu me dis là,
le corps diplomatique.
Ça ne me ramène pas de stabilité. Là. Je suis en train de me dire, je repose la question, avec qui on négocie? Les gardes de la Révolution, l'ayatollah, la source diplomatique du président? Qui est aux commandes?
Excellente question. En ce moment, ils négocient même pas avec les Iraniens. En ce moment, on n'a même pas de communication directe avec les Iraniens. C'est des négociations qui sont entièrement faites par l'intermédiaire du Pakistan, Islamabad. T'as le Field Marshal, qui est un grand ami de Trump, qui est actuellement responsable de, essentiellement, transférer des messages. Mais il faut être clair pour les gens à la maison. Là, actuellement, on n'a pas affaire du tout à des négociations sur les questions fondamentales ou même périphériques. Là, on est en train de négocier sur quoi on va négocier. C'est littéralement ça.
On dit que ça tient sur une page, là. Une page.
Oui, exactement. C'est un mémorandum. On dit un mémo d'une page, environ 14 points, où on dit c'est un framework, un cadre sur lequel on veut travailler. Et ensuite, on pourra commencer les négociations. Essentiellement, les Iraniens, ce qu'ils disent, c'est garde, la question nucléaire, ça ne sert à rien qu'on en négocie. Là. C'est terminé. Tu n'as plus un mot à dire là-dessus. On gère ça pour toujours. Hormuz, ça ne reviendra jamais à l'état d'avant-guerre. Ce que nous, on est prêt à négocier, c'est les conditions avec les proxys, c'est la relation avec Israël, les cessez-le-feu, c'est la fin des hostilités, on est prêt à négocier la levée des sanctions, mais le reste, ça fait pas partie de l'équation. Fait que là, en ce moment, le nerf de la guerre, si on veut vraiment, là, c'est une discussion à savoir, est-ce qu'on devrait mettre de côté l'enjeu du programme nucléaire iranien pour une deuxième séquence de négociations? La proposition qui a été faite par les Américains, c'est de dire, regarde, on va se donner 30 jours de cessez-le-feu pour négocier tout ce qui touche pas au nucléaire. Quand on aura une entente là-dessus, on va se donner un autre 30 jours pour juste la question nucléaire. Maintenant, c'est ça. Les Iraniens ne veulent absolument rien savoir de négocier sur ces enjeux-là parce qu'ils savent qu'ils sont en contrôle de la situation. Puis, dans le contexte, eux sont très confiants puis confortables avec le statu quo. Au contraire, ils adoreraient de voir les États-Unis se commettre un peu plus dans un enlisement en Iran parce que la situation actuelle les favorise énormément.
Et ils n'ont pas la même sensibilité. Puis on le voit de toute façon, on a un régime très dur, très dictatorial, théocratique. Donc, c'est l'ayatollah qui décide, puis tu vois les commentaires, puis tu sais. Donc, souvent, on se dit, mais là, leur peuple doit crever de faim. Ça tiendra pas. Ben oui, ça va tenir. ils ont eux-mêmes assassiné 30, 40, 50 000 personnes dans leur propre peuple parce qu'ils n'avaient pas mis le voile ou parce qu'ils contredisaient. Ça ne dérange pas que le monde meure de faim. Là. C'est pas,
Ben oui, il ne faut pas oublier, JC, ce que tu soulèves, c'est tellement bon parce qu'il faut se souvenir du contexte quand même dans lequel se sont produits ces exécutions sommaires puis ces assassinats et cette répression extrêmement violente du gouvernement iranien face aux manifestations. L'envergure des manifestations, bon, c'est encore extrêmement, là, disons, ambigu à savoir à quel point c'était répandu. Mais une chose est sûre, c'est qu'à ce moment-là, ce qui invitait moindrement le gouvernement iranien à un peu de prudence et de modération, c'est qu'on craignait une intervention israélo-américaine. On ne voulait pas donner le prétexte de partir en guerre contre l'Iran puis d'essayer un changement de régime. Là, une fois que tout ça est fait, que ça a été démontré que les Iraniens n'ont pas la capacité de changer de régime, encore moins la capacité de contraindre le régime à faire quoi que ce soit, en fait. Mais là, soudainement, il n'y a rien qui les empêche ou qui les modère ou qui les invite à la prudence dans une répression de la manifestation. Fait que la population iranienne, tu fais bien de le soulever en ce moment. Je veux être clair, là, on regarde beaucoup les tarifs de pétrole au Moyen-Orient. On regarde un peu le tarif pour le gaz naturel, le pétrole en Asie. On regarde aux États-Unis à la pompe. Il ne faut vraiment pas oublier l'impact énorme qu'on voit actuellement en Iran, où là, la population, ce qu'elle rapporte, c'est que jamais dans l'histoire moderne de l'Iran, la classe moyenne n'a été aussi humiliée. Comme quoi, c'est un mode de vie en ce moment qui n'a plus aucun sens, où là, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, l'accès à des services de base, au-dessus d'un million d'emplois qui ont été perdus depuis le début du conflit, en raison largement là, des bombardements, destruction de l'infrastructure, les perturbations qui viennent avec. Fait qu'il n'y a pas de doute que la population iranienne vit un sacrifice énorme. La différence, c'est qu'aux États-Unis, les gens vont travailler le matin, reviennent à 5 heures, prennent les nouvelles, puis s'informent à savoir comment ça a avancé. En Iran, on mène un combat existentielle pour ce qu'on perçoit comme étant la survie de la nation iranienne elle-même, de son identité, de sa spécificité. On est en train de résister à un coup d'État imposé, une guerre d'agression, pour venir installer un leader étranger qui est essentiellement une marionnette, là, la Reza Pahlavi. Fait que la perception de ce conflit-là, du côté américain, qui est un conflit surtout de projection de la force, c'est vraiment pas la même chose en matière du le niveau de sacrifice qu'on est prêt à accepter. Non. Puis là, JC, moi, il y a un point que je veux absolument soulever. Là, ça devient de plus en plus flagrant, là, que les Américains n'ont littéralement pas la possibilité de relancer la guerre. On a su quelque chose un matin de complètement lunaire. L'Arabie saoudite... Là, on a résumé l'histoire. Vous avez tous vu ces deux derniers jours, là, le fameux projet Liberté de Donald Trump, qu'on disait qu'on allait rouvrir le détroit d'Ormuz, on va y aller, puis si jamais l'Iran nous tire dessus, ils sont mieux pas parce qu'on va ouvrir l'enfer en Iran, puis ils vont sauter dans un trou noir.
Pierre et Leloup, là, l'enfer, ça fait six fois qu'il nous dit ça. Ouais, c'est ça.
Ben là, ce qu'on a su, c'est ça. C'est que Trump annonce tout ça, fait son tof, roule le tambour de guerre. 15 minutes après, le téléphone sonne. Prince héritier Ben Salman de l'Arabie saoudite qui dit « Mon homme, si tu décides de relancer la guerre contre l'Iran, là, on sait tous c'est quoi qui va se passer. C'est pas les Américains qui vont se faire viser, c'est tous les pays du Golfe au complet. C'est encore nous autres qui vont se manger des bombardements. Et l'Arabie saoudite, c'est incroyable, c'est lunaire, là. Ont retiré aux États-Unis l'accès aux bases militaires sur le territoire saoudien.
Donc,
et ils ont encore plus, leur ont interdit l'accès à l'espace aérien saoudien.
Wow!
Donc, on est carrément en train de dire, les Saoudiens qui disent « Non, c'est fini, ce guerre-là. Là. C'est terminé. Vous arrêtez ça, vous négociez. Nous autres, on n'est plus capables. »
Et je pense que c'était un des trucs qui tenait encore certaines personnes, dont moi, je dois le dire, je me disais, ils ont encore des alliés sur place. Tant qu'ils auront le ceinturon de protection du Qatar, de l'Arabie saoudite, des Émirats, d'une espèce de boucle de protection... Ça peut tenir si ces pays-là restent cordés derrière les États-Unis. Mais là, si ça commence à faire de la dissension, Et ça peut être un effet domino, ben ça, oui. Benjamin. On peut c'était, avoir un autre un qui dit, ben moi aussi, d'abord. Là, c'est...
Ben oui, exact. Parce que c'était tellement prévisible d'une manière, JC. C'est à chaque fois, la courbe d'escalade était la même. C'est les États-Unis cognent ça à la tête de l'Iran. L'Iran n'a pas un marteau assez long pour cogner à la tête des États-Unis. Donc, cogne ce qui est à sa disposition, cogne les pays du Golfe autour. Fait qu'à manier pour les Américains, la punition est beaucoup moins.
Ben oui.
Une relation asymétrique là-dedans.
Ben oui,
ben oui, t'exportes la pénalité à tes alliés, dans le fond. Fait que ça, les alliés commencent à perdre patience. Puis à dire, là, mon homme, fais attention. Et la question, moi, additionnelle que je poserais, c'est celle des inventaires militaires. Là, on découvre que les Américains ont dilapidé à peu près 50 % de leur stock total,
wow,
mondial de munitions avancées de précision. Tout ce qu'il y a de missiles là, pour attaquer profondément des cibles renforcées, tout ce qu'on utilise depuis le début de la guerre, non seulement les intercepteurs, on en parlait plus longtemps, les intercepteurs. Là, c'est même les missiles offensifs qui manquent en quantité hallucinante. Les Américains ont dépensé en un mois l'équivalent de 10 ans de production.
Wow.
C'est hallucinant. Ah non, on a affaire vraiment à des dimensions là, d'utilisation de munitions qui n'ont aucun sens. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les pays du Golfe en ont plus, les États-Unis n'en ont plus, Israël n'a plus d'intercepteurs non plus pour se défendre, on est rendu à rationner. Fait que là, moi, je me pose la question, là, qu'est-ce que ça joue comme portion, disons, d'influence dans ce calcul, là, quand on sait que plus personne ici a vraiment les moyens de maintenir un conflit à aussi haute intensité. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est bien confortable là, dans ce statu quo actuel.
Tu sais, la simili... Ben, la paix qu'on vit... Parce que, tu sais, je dis simili parce que, oui, il y a eu des conflits sporadiques ici et là, là depuis les... Mettons, depuis le Vietnam. Tu sais, depuis la guerre du Vietnam, on comprend que, bon, il y a eu des petits conflits, des ci, des ça, mais tu sais, j'ai l'impression que la majorité de la paix qu'on a vécue pendant ces décennies-là reposait sur la peur des Américains. C'est-à-dire que personne n'osait, regarde, si on met un pied sur un orteil américain, on va se faire décapiter, ils ont trop d'armes, ils ont trop de... Là, si les Américains réussissent, puis ça serait quand même un exploit, là, réussissent à prouver au monde que l'Iran est capable de vider le stock de missiles, c'est quoi le message que tu envoies à Chine?
Ah, c'est tellement dangereux. Les conséquences de ça vont être senties pendant des années. Là, écoute, on nous avertit déjà du côté du Pentagone. Puis ça, c'est des déclarations qui fuitent dans les médias. Fait que t'imagines que l'état réel des choses est peut-être bien pire. On nous dit qu'on en a pour 6 ans dans le meilleur des scénarios, même en accélérant la cadence, juste pour retrouver l'état d'avant-guerre. Pas pour atteindre un niveau conséquent.
Pour restocker, là.
Ben oui, puis là, c'est bien plus profond que juste restocker. Parce que ce qu'on constate, c'est que nos stocks pré-guerre était inadéquat pour ce genre de conflit moderne à haute intensité. Fait que là, la question, c'est pas juste de renflouer les stocks qu'on avait.
C'était
il va
pas
falloir
le bon stock.
Les quadrupler puis les multiplier par 10 pour pouvoir sérieusement, ne serait-ce que prétendre à de la dissuasion crédible face à la Chine. Sans ça, la Chine regarde ça, puis là, elle apprend que t'as autant de missiles que t'en avais avant l'Iran et que t'es tout fier de ta capacité de dissuasion. Elle sait très bien que c'est du bluff puis que dans 3 semaines, t'as plus assez de missiles. Là, on est en train de revoir nos révisions pour Taïwan, notamment. On estimait que Taïwan en avait pour peut-être de 5 à 6 semaines là, de capacité défensive. Là, on est rendu à dire que Taïwan a à peu près pour 3 à 8 jours de résistance face à la Chine dans l'éventualité d'un conflit. Encore plus que ça, la question fondamentale, c'est celle de la volonté des Américains à les défendre. Où là, tu vois, dès que ça commence à chauffer puis à brûler un petit peu, pas pour qu'un adversaire, on pourrait dire périphérique ou indirect des États-Unis, là où ils vont défendre quelqu'un d'autre. Non, non, c'est une guerre américaine où dès que ça vient à chauffer un peu, Trump veut sortir, check out, puis abandonner et déserter tout le monde dans la région.
Tu sais, je pense que
les Japonais, les Coréens, là, tout le monde se gratte la tête.
Bien, puis tout le monde, puis il y a des ennemis qui doivent prendre des notes, là, de dire, hey, si on les étire pendant une couple de mois, un an ou deux, les forces vont se stabiliser peut-être. Là. Puis là, ben, écoute, c'est sûr que les gens me disent, ben oui, mais c'était pas ça le plan. C'est sûr que c'était pas ça le plan. Le plan, Trump voulait faire un in and out. On rentre, ils s'agenouillent, ils disent « on s'excuse, pardon mon oncle, on s'en va ». Mais c'est très rare que ça, des opérations comme ça entre deux pays.
Ben, c'est excessivement rare. Surtout, JC, on en parlait ensemble une couple de semaines. Là, cet article qui était sorti du New York Times qui avait raconté la séquence dans les jours où on a décidé là, d'aller appuyer Israël en Iran puis d'embarquer dans cette excursion, comme appelle Donald Trump. Ça s'est passé sous l'opposition de tous les conseillers de Trump. où tout l'état-major militaire disait non seulement c'est une mauvaise idée, les prévisions puis les prédictions israéliennes sont dignes d'une farce. On nous disait farcical, on disait c'est une joke, c'est d'une stupidité consommée. Tout le monde dans l'état-major américain a vu cette séquence-là dans les 30 dernières années où systématiquement Netanyahou va essayer de lobbyer le président américain et de lui hard sell une invasion de l'Iran. La différence, c'est que tous les autres qui ont précédé Donald Trump ont eu l'intelligence et la sagesse de savoir que c'était du lobbying, puis c'était de la gesticulation et que ça entraînerait les États-Unis dans un véritable trou noir. Là, la question à savoir pourquoi Trump est embarqué là-dedans, il y a un million de facteurs. Il y en a plusieurs qui vont nous dire c'est l'influence israélienne, un autre nous dire Trump est lui-même acquis à la cause israélienne, que ce soit par de l'information, du compromat ou quoi que ce soit dans le genre.
Ça peut être aussi parce que Trump, il est très feeling, là, il est très branché. Ben,
moi, j'ai l'impression que c'est ça.
Mais moi, tu sais, dans un party où on prend une bière, là, puis que tu me dis, tu sais, l'Iran, là, si ça n'existait pas, là, cette théocratie-là autoritaire qui assassine son propre peuple, on s'en porterait peut-être mieux comme planète. Je vais être bien d'accord. Tu sais, je vais dire, ouais, effectivement, maintenant, de le dire et de le faire, c'est deux choses. Et est-ce que les gens t'appuient? Est-ce qu'ils sont prêts à faire, comme tu l'as dit si bien en début d'entrevue, est-ce que les gens sont prêts à faire le sacrifice que ça demande? Parce que c'est pas vrai que le sacrifice, ça va être juste de hausser le prix du gaz de 20 cents.
Ouais.
Le sacrifice, ça va être peut-être de vos enfants qui meurent. Tu sais, c'est là où je pense que les gens ont pas pris la... Trump a peut-être pas pris la mesure. Lui a dit, moi, l'Iran, je suis tanné, c'est des pas fins, on y va. Ouais. Sauf qu'à un moment donné...
T'as absolument raison. Moi, j'ai l'impression que le thème récurrent là-dessus, ça a été un peu la naïveté. Naïveté d'un certain nombre d'éléments. Puis on peut l'excuser à Donald Trump parce qu'il avait toutes les raisons du monde d'être naïf. Premièrement, naïf face à son électorat. On lui a toujours dit que le monde allait arrêter de le suivre, qu'il ne pouvait pas faire ça, qu'il ne peut pas faire ci. Chaque fois, les gens le suivent et son électorat n'est pas nécessairement divisé. La question Epstein puis la question de l'Iran, c'est la première fois qu'on voit vraiment des chocs aussi importants dans la base de Trump. Ensuite, naïveté opérationnelle, où on peut aussi le pardonner à Trump. Il a vu les États-Unis aller servir une leçon incroyable à l'Iran pendant 12 jours, et il y a seulement quelques mois, en juin dernier. Ensuite, on a vu Trump aussi débarquer au Venezuela pendant le mois de janvier, 3 janvier, avec l'opération Midnight Hammer, puis d'aller sortir Maduro en toute impunité. Fait que constamment, là, on répète à Trump depuis le début de sa carrière en politique qu'il ne peut pas faire X, qu'il ne peut pas faire Y, et c'est essentiellement le discours de tout le monde qui l'entoure systématiquement. Fait que c'est sûr que lui, peut-être, a développé une certaine aversion à la contre-indication, et là, il y a quelqu'un qui est venu lui dire « Tu devrais aller en Iran. » Tout le monde il disait le contraire, il s'est dit « Fuck you, je vais suivre mon instinct ». C'est très trumpien, tu sais.
Oui, mais on verra, je sais pas comment on va. Écoute, là, il y en a qui me parlent de Vietnam. Non, là, je pense pas. Là, Vietnam, c'est combien? Ça a duré 12 ans, là,
ben, c'est ça qu'il veut éviter. C'est ça qui était fascinant dans cet article aussi, là, qu'on décrivait, que Trump lui-même était un peu conscient de ça, qu'il disait, écoute, il a vu le désastre que ça a été l'Afghanistan, il a vu le désastre du Vietnam, et il citait constamment Jimmy Carter. Comme quoi, Jimmy Carter a été embourbé dans cette espèce de connerie du Vietnam et de l'Iran, en fait, et qui a été incapable de s'en sortir politiquement. Fait que Trump est vraiment terrorisé à l'idée que ce soit ça sa dynastie. Et ça, il faut le comprendre, parce que c'est probablement un des personnages politiques qui a le plus marqué le monde dans le 21e siècle et de loin. Fait que l'idée pour lui que ce qu'il va laisser derrière, puisqu'on va citer de son passage, c'est une guerre complètement stupide et catastrophique contre l'Iran, ça le hante carrément à tous les jours. Fait que c'est pour ça que tu vois carrément un Trump qui, en ce moment, voudrait tellement que la guerre s'arrête, voudrait tellement une porte de sortie, mais en même temps, il n'est pas prêt à accepter de perdre la face. Et donc, tu as ces deux incompatibilités-là avec lesquelles il doit composer.
Benjamin, on n'aura pas le temps, mais Cuba viendra bien assez vite parce qu'il l'a dit de toute façon, Donald, après l'Iran, je m'occupe de Cuba. Fait qu'on s'en reparle.
Bye-bye, JC.
Salut, merci, bye. Benjamin Tremblay. 7 jours sur Terre, trouvez ça sur YouTube. On fait une pause. Après ça, on me dit que ça devrait brasser en studio.
Ben, j'ai peur, moi, je...
Parce que moi, depuis tantôt, je vois des gens qui se costument, qui se maquillent, là.
Ben non, mais je vois qu'on veut lancer des humains, je vois du feu.
Moi, tu m'as proposé un invité.
Je vois de la pyrotechnie, je vois... là, je vois quelqu'un qui jongle avec du feu, l'autre bord.
Ah oui, ça crache des affaires.
Je vois quelqu'un qui se contorsionne.
Ah oui.
Puis je vois quelqu'un pas de brassière.
Toi, tu m'as dit... Hey, on peut inviter un artiste qu'on va vous présenter après la pause, puis il ferait une petite performance. Moi, je m'attendais comme d'hab, là, quelqu'un qui arrive avec sa guitare.
Ouais, j'ai décidé de rien dire. surprise!
Là, on dirait que le Cirque du Soleil vient de s'installer. On vient, on verra.
Ouellet. Non, 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 non. En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.